Vous écoutez France Culture.
C'est l'heure du carnet nomade, Colette Fellous à la réalisation Vincent Deck. Aujourd'hui, rendez-vous avec Julia Kristeva. C'était à Assise, le 27 octobre dernier, dans la basilique Sainte-Marie-des-Anges, que le pape Benoît XVI célébrait le 25e anniversaire de la rencontre interreligieuse provoquée par Jean-Paul II. Julia Kristeva, qui sera l'unique hôte de ce carnet nomade, était aussi une invitée de cette journée et elle a offert un texte qu'elle avait intitulé « Quelques principes pour l'humanisme du 21e siècle ». Je rappelle que Julia Kristeva est née en Bulgarie, qu'elle vit en France depuis 1966. Elle est écrivain, psychanalyste, professeur émérite à Paris 7 Diderot et membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris. Voici un extrait de ce discours de Julia Kristeva, un discours qu'on entendra d'ailleurs dans ce carnet nomade. C'est vers la fin. Elle dit « L'homme ne fait pas l'histoire, mais l'histoire, c'est nous ». Pour la première fois, Homo sapiens est capable de détruire la Terre et soi-même au nom de ses religions, croyances ou idéologies. Pour la première fois aussi, les hommes et les femmes sont capables de réévaluer en toute transparence la religiosité constitutive de l'être humain. La rencontre de nos diversités ici, à Assise, témoigne que l'hypothèse de la destruction n'est pas la seule possible. Personne ne sait quels humains succéderont à nous qui sommes engagés dans cette transvaluation anthropologique et cosmique sans précédent. Ni dogme providentiel, ni jeu de l'esprit, la refondation de l'humanisme est un pari. L'ère du soupçon ne suffit plus. Face aux crises et aux menaces aggravées, voici venue l'ère du pari. Osons parier sur le renouvellement continu des capacités des hommes et des femmes à croire et à savoir ensemble, pour que, dans le multivers bordé de vide, l'humanité puisse poursuivre longtemps son destin créatif.
Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, tum pendivat filius, cuius animam gementium, contristantem et dolentem, per transivit larius.
Carnet nomade, rendez-vous avec Julia Kristeva, avec un premier flashback le 27 octobre dernier, donc à Assise, dans la basilique Sainte-Marie-des-Anges.
Votre Sainteté, mesdames et messieurs, qu'est-ce que l'humanisme ? Un grand point d'interrogation à l'endroit du plus grand sérieux, l'homme et Dieu. C'est dans la tradition européenne, grecque, juive et chrétienne que s'est produit cet événement qui ne cesse de promettre, mais aussi de décevoir et de se refonder. Les mots de Jean-Paul II, « N'ayez pas peur », ne s'adressent pas seulement aux croyants qu'ils encourageaient à résister au totalitarisme. L'appel de ce pape, apôtre des droits de l'homme, nous incite aussi à ne pas craindre la culture européenne, mais au contraire à oser l'humanisme, en bâtissant des complicités entre l'humanisme chrétien et celui qui, issu de la Renaissance et des Lumières, ambitionne d'élucider les voies risquées de la liberté. Merci aujourd'hui au pape Benoît XVI d'avoir invité, pour la première fois en ces lieux, des humanistes parmi vous. C'est un événement. L'humanisme du XXIe siècle, mesdames et messieurs, n'est pas un théomorphisme. C'est dire que ni valeur, ni fin suprême, l'homme majuscule n'existe pas. Après la Shoah et le goulag, l'humanisme a le devoir de rappeler aux hommes et aux femmes qui, si nous ne sommes pas les seuls législateurs, c'est uniquement par la mise en question continue de notre situation personnelle, historique et sociale, que nous pouvons décider de la société et de l'histoire. Aujourd'hui, loin de démondialiser, une nouvelle réglementation internationale est nécessaire à inventer pour réguler et maîtriser la finance et l'économie mondialisée et créer à terme une gouvernance mondiale éthique, universelle et solidaire. L'humanisme est un processus de refondation permanente qui ne se développe que par la rupture, et ces ruptures sont des innovations. La mémoire n'est pas du passé. La Bible, les évangiles, le Coran, le Rig Veda, le Tao nous habitent au présent. Pour que l'humanisme puisse se développer et refonder, le moment est venu de prendre au sérieux les codes moraux construits au cours de l'histoire, sans les affaiblir, pour les problématiser, en les rénovant au regard des nouvelles singularités des hommes et des femmes. Car, mesdames et messieurs, l'humanisme est un féminisme. La libération des désirs devait conduire à l'émancipation des femmes. Les combats pour une parité économique, juridique et politique nécessitent une nouvelle réflexion sur le choix et la responsabilité de la maternité. La sécularisation est encore la seule civilisation qui manque de discours sur la maternité. Ce lien passionnel entre la mère et l'enfant, par lequel la biologie devient sens, altérité et parole, est une reliance qui, différente de la fonction paternelle et de la religiosité, les complète et participe à part entière de l'éthique humaniste.
Il y a eu un moment extraordinaire en octobre dernier, Julia Kristeva, où vous étiez à Assise, invitée par le pape, et où vous avez développé aussi vos principes autour de l'humanisme. Et c'est d'ailleurs une question qui vous tient depuis quelque temps. Et j'avais envie d'ouvrir cette conversation avec vous, avec ce thème et avec cette rencontre d'Assise.
Oui, écoutez, c'est un moment magique auquel je n'avais jamais pensé. Et quand on m'a invitée à participer à cette rencontre, j'ai simplement accepté parce que je trouvais ça intéressant culturellement. Puis j'ai écrit mon texte dans un état second, sans trop savoir ce que je faisais, mais en me mobilisant pour trouver les mots justes, condenser, etc. Et maintenant, en y repensant, et surtout en relisant ce que j'ai fait, j'ai l'impression de m'avoir transcendée. C'est un mot que vous connaissez un peu, que je n'emploie pas beaucoup. Je suis une des rares athées qui reste sur cette terre, mais j'ai l'impression d'avoir fait une espèce d'arrachement à moi-même et au quotidien qui m'impressionne moi-même. Et je vais vous raconter cela parce que je ne l'ai jamais depuis mis comme ça à distance. Et c'est donc une série de rencontres qui a été initiée il y a plusieurs années, rencontres interreligieuses qui se tiennent à Assise et que Benoît XVI n'avait pas reprises. Et tout à coup, il décide de le faire, ce sont ses raisons. Il avait envoyé pour ce faire ce qu'on appelle le ministre de la Culture du Vatican, le cardinal Ravasi, lequel avait engagé une initiative qui s'appelle le Parvis des Gentils et qui s'est tenue au printemps 2011 à l'Académie française, à l'UNESCO et à la Sorbonne. Et je représentais à la Sorbonne, avec Axel Kahn, les non-croyants. Et le texte que j'ai présenté à cette discussion s'intitule « Oser l'humanisme ». Évidemment, ça rejoint la question que vous venez de me poser. Pourquoi oser l'humanisme ? Moi, je me considère comme une humaniste. Mais y compris dans mes milieux de non-croyants, d'athées, d'humanistes, nous sommes nombreux à considérer que l'humanisme s'essouffle, c'est parfois une pensée molle, quand on ne l'accuse pas de tous les maux de la modernité, du goulag en passant par la Shoah et jusqu'à le nihilisme contemporain qui va dans le mur, paraît-il. Pourquoi ? Parce que l'humanisme aurait enlevé les valeurs. Et n'a pas des valeurs classiques et n'a pas trouvé de solution nouvelle à ce manque de valeurs. De manière plus sérieuse et pour sortir de cette culpabilisation ou ce ostracisme médiatique à l'égard de l'humanisme, on connaît les deux grands textes, l'un de Heidegger, Lettre sur l'humanisme, et l'autre de Sartre, qui, tous les deux, de manière très différente, mettent en évidence une pensée molle qui est à éviter pour Heidegger, même si, en lisant le texte de manière plus approfondie, on se rend compte qu'il essaye de développer une autre proximité humaine et n'est pas tout à fait hostile à une certaine réévaluation de l'humanisme. Mais on a retenu cela. Pensée molle, alors que Sartre, au contraire, revendique une renaissance de l'humanisme, une refondation. Et dans le sillage de tout cela, j'ai proposé comme titre « Oser l'humanisme » pour montrer donc combien c'est difficile, combien il faut faire toute une réévaluation de la tradition, à commencer par la pensée grecque, l'humanisme chrétien, et combien l'humanisme n'est jamais fini, n'est jamais définitivement fondé, mais qu'il faut le réinventer constamment. C'est une réinvention continue. Et donc, recevant l'invitation de Mgr Ravasi, je dis, évidemment, j'irai à Assise aussi. Et pour moi, Assise est un lieu symbolique, surtout à cause de Giotto. À mon arrivée en France, nous sommes allés avec ma sœur en Italie. C'était le continent européen qui nous tendait ses bras, et notamment la peinture, la musique. Et nous sommes allés, entre autres, évidemment à Venise et puis à Assise avec les fresques de Giotto. C'est un lieu enchanté. Donc voilà, j'accepte l'invitation et j'ai préparé deux versions de mon intervention. Une version longue que j'ai présentée à la veille de la rencontre à l'Université de Rome, et une version courte que j'ai présentée le lendemain. Et c'était avec une grande émotion que, à la fois, j'ai prononcé le discours dans la cathédrale d'en bas, et aussi, c'est avec une grande émotion qu'on a escaladé, après que l'autobus nous est monté assez haut, on a escaladé une partie du chemin pour aller au refuge de Saint-François. Et figurez-vous, j'ai entendu tout au long de ce chemin des gens qui scandaient le nom de Benoît XVI, évidemment, parce que c'était des fanatiques qu'on avait ameutés de toute l'Europe, je suppose, et Benedetto, enfin, ils étaient des scouts, etc. Et aussi, parce qu'ils m'avaient entendu en bas, mon nom, Julia, avec nous. Donc, je me disais, mais je suis une star de l'humanisme revu et corrigé. Mais c'est surtout la prononciation de mon texte dans la cathédrale qui m'a beaucoup touchée, parce que j'étais la seule femme. Et parce que...
C'est ce texte qu'on peut voir en vidéo hein, sur votre site. Oui, c'est très, très émouvant.
C'est le texte qui est sur vidéo, enfin, la prononciation du texte. Et on a aussi sur mon site la version longue que je prononçais à l'université, qui est peut-être plus développée, et qui s'appelle « 10 principes pour l'humanisme du XXIe siècle ». Alors, évidemment, 10 principes, c'est le contrepoids des 10 commandements, mais c'est toujours à l'écoute de ces 10 commandements. Et dans mon souci de resserrer ma pensée, je suis arrivée à un certain nombre de formulations qui concernent aussi bien les femmes, le souci de créer une nouvelle vision de la maternité, que le fait que l'humanisme se doit de faire une réévaluation de toutes les religions qui nous précèdent, que le fait de ne pas simplement se lancer dans un libéralisme qui lâche les amarres de toute contrainte, sauf celle du marché, mais de rétablir des notions comme autorité, transmission, etc. Donc tout ça est assez complexe, mais en même temps, j'essayais de le faire comme un artisan qui choisit ses mots et essaye de faire intense et court. Et donc, je ne me rendais pas compte en faisant cela que j'étais émue. Et au moment de le prononcer, surtout dans cet endroit, dans cet espace, et avec autant de religieux, je n'ai jamais vu autant de barbus et de chapeautés, des juifs, des chrétiens, des musulmans, des taoïstes, des confucianistes, enfin, tout ce que vous voulez, c'était assez impressionnant. Et tout ça était vraiment... on est dans un état second parce qu'on a l'impression de porter une histoire, de porter quelque chose qui me dépasse non pas vers le haut, mais vers l'avant et vers l'après. Moi, je suis en tant qu'humaniste dans la chaîne humaine qui passe à travers nous et moi à ce moment-là. Et c'est ce sentiment d'être un lieu de transmission d'une mémoire qui m'a beaucoup, beaucoup bouleversée. On me dit, mais est-ce que tu devais être très, très impressionnée de parler devant le pape ? J'étais devant lui avec une sorte de respect vis-à-vis du philosophe, et je n'avais pas tort parce qu'il a repris la parole de manière extrêmement intéressante, me semble-t-il, et qui tranche avec l'image qu'on a de lui, de quelqu'un de rigide et un peu plus que conservateur, mais surtout pas tellement donc sa sainteté, qui pour moi n'est pas une transcendance, mais un homme avec une grande responsabilité, et surtout les attentes que beaucoup de gens peuvent avoir d'une telle rencontre, surtout interreligieuse évidemment, mais ce qui était nouveau, c'est que pour la première fois, ils invitaient des non-croyants. Oui. Et ça, c'est un événement. Évidemment, il y a, je suppose, depuis très longtemps, des rencontres plus ou moins secrètes, confidentielles, entre croyants et la papauté, mais jamais une manifestation publique, et surtout pas assise, n'a accueilli des non-croyants. Ceci fait, j'ai prononcé mon discours, ça pouvait en rester là. Le pape étant moi la dernière après tous les représentants des grandes religions, donc ma place ne pouvait être qu'à la fin, mais c'était très symbolique parce que après la fin, c'est le pape qui reprend la parole et qui a dit deux choses extraordinaires que je me permets de résumer. La première, c'est que le religieux, les religions, parlez au nom de toutes les religions, sont incompatibles avec les violences. Disait-il. Évidemment, on pense tout de suite que le christianisme n'a pas été toujours incompatible avec la violence, mais il a dit que, je résume encore, malgré les pogroms, les croisades et divers autres inquisitions, le christianisme maintenant n'est plus dans cette optique, le catholicisme en tout cas qu'il représente, et il s'adresse à d'autres religions qui seraient tentées par la violence pour insister sur le fait que dans leur essence, les religions seraient incompatibles avec la violence. C'est un grand sujet, on pourrait faire un colloque, je pourrais montrer moi-même que ce n'est pas tout à fait le cas, mais passons. Le deuxième point qui était pour moi le plus intéressant, il s'adresse à tous les croyants en disant que pour la première fois, vous avez, vous croyants, parmi vous des non-croyants en ces lieux, et que ces gens-là, et ça, là c'est le pape qui parle, doivent être très malheureux parce qu'ils n'ont pas notre vérité. Nous commencions à nous regarder en disant, mais est-ce qu'il ne faut pas réagir à tout cela ? Bon, très vite, il dit, ils n'ont peut-être pas notre vérité, mais pour ces gens-là, la vérité est un chemin, une interrogation permanente, une lutte intérieure. C'était un peu en résonance avec ce que j'avais dit aussi et ce que nous pensons, nous les humanistes. Et à ce moment-là, il s'adresse à tous les croyants qui se croient, dit-il, propriétaires de la vérité et auxquels il nous donne comme exemple, car s'ils ne suivent pas cette voie, à savoir que la vérité doit être constamment interrogée, devenir une lutte, une interrogation permanente, s'ils ne font pas ça, c'est là qu'ils aboutissent à la violence. Ce qui était évidemment tout à fait étonnant. Un nouveau Ratzinger n'était pas né à cette occasion, mais s'est révélé. Et c'est là, me semble-t-il, que aussi bien le philosophe que l'homme politique prenaient la parole. Et mon émotion ne pouvait que grandir dans cette circonstance. Voilà où nous sommes. Je pense que c'est un événement, en effet. Maintenant, quelle suite on va lui donner? Bon, je pense qu'il va y en avoir, sinon immédiatement, du moins à long terme. Et d'une certaine manière, on essaye de le faire d'ores et déjà au Bernardin, avec un certain nombre de rencontres qui reprennent l'esprit d'assise.
Io vivo contento per cruda beltà. Nel ciel di bellezza s'accresci fierezza e manchi pietà, che sempre qual scoglio all'onda d'orgoglio mia fede sarà.
Suite de ce carnet nomade, rendez-vous avec Julia Kristeva. Second flashback, donc à Assise, le 27 octobre 2011.
Parce qu'il éveille les désirs de liberté des hommes et des femmes, l'humanisme nous apprend à les soigner. Le souci amoureux d'autrui, le soin de la terre, des jeunes, des malades, des handicapés, des vieillissants dépendants, sont des expériences intérieures qui créent des proximités nouvelles et des solidarités inouïes. Nous n'avons pas d'autre moyen que l'expérience intérieure pour accompagner la révolution anthropologique qu'annonce déjà la course en avant des sciences, le laisser-aller de la technique et de la finance et l'impuissance du modèle démocratique pyramidal à canaliser les innovations. Mesdames et messieurs, l'homme ne fait pas l'histoire. Mais l'histoire, c'est nous. Pour la première fois, Homo sapiens est capable de détruire la Terre et soi-même au nom de ses croyances, religions, idéologies, mais aussi sciences et techniques. Pour la première fois aussi, les hommes et les femmes sont capables de réévaluer en toute transparence la religiosité constitutive de l'être humain. La rencontre de nos diversités ici à Assise témoigne que l'hypothèse de la destruction n'est pas la seule possible. Personne ne sait quels humains succéderont à nous qui sommes engagés dans une transvaluation anthropologique et cosmique sans précédent. Ni dogme providentiel, ni jeu de l'esprit. La refondation de l'humanisme est un pari. Mesdames et messieurs, l'ère du soupçon entre les religions et entre croyants et non-croyants, cette ère de soupçon ne suffit plus. Face aux crises et menaces aggravées, voici venue l'ère du pari. Osons parier sur le renouvellement continu des capacités des hommes et des femmes à croire et savoir ensemble, pour que dans le multivers bordé de vide, l'humanité puisse poursuivre longtemps son destin créatif. Merci de votre attention. Thank you.
Mais c'est vrai que c'est un moment historique aujourd'hui où on voit des mutations de la société et où justement ce principe d'humanisme doit être repensé, comme vous dites, remis à jour, avec d'autres peut-être définitions. Et c'était à la fois un courage que vous avez eu et en même temps une urgence. Il y avait cette sensation en vous voyant d'ailleurs assise, on voyait que tout votre corps était engagé en fait. Il y avait toute une précision et comme s'il y avait urgence aujourd'hui à repenser tout ça.
Oui, c'est ça que je sens a posteriori en regardant cette vidéo. Je vous disais tout à l'heure comme si j'étais transcendée. J'y pensais pas du tout. Je savais pas vraiment où j'allais. Je n'y pensais pas, sauf au moment d'écrire ce texte, qui est un moment, comme toujours quand on écrit, d'une grande concentration. D'ailleurs, j'ai rencontré le cardinal Ravasi à l'occasion du Festival littéraire de Rome en 2010, je crois, 11, je ne sais plus, qui m'avait invité pour parler de l'extase en littérature. Et à cet égard, et à cette occasion, j'ai parlé de l'extase de Thérèse. Un endroit d'ailleurs magique lui aussi, une basilique Massentio qui recueille beaucoup de gens sous le ciel nocturne de Rome. C'est une ruine de basilique. Et donc en parlant de cette sainte qui écrivait, j'essayais de toucher quelque chose qui fait partie de l'expérience humaine de l'écriture, où on essaye, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye de rassembler des émotions, des angoisses, un corps indicible, et de lui trouver des impacts dans des mots, qu'on essaye d'innover en les mettant dans des contextes différents, faisant des métaphores ou en condensant au maximum. Et cet état, moi je le trouve, j'essaye de le trouver en écrivant de la fiction. Quelles que soient les réussites de la fiction ou son audience, je crois que tous ceux qui s'y essayent passent par cet état de concentration qu'on peut appeler, avec un peu de prétention, extatique. On sort de sa psychologie et on est dans un tourbillon d'hilarité et d'horreur. C'est à la fois assez drôle et tragique, insignifiant et grandiose. Et en même temps, un état d'artisanat, parce qu'on est là avec des bouts de ficelle et on essaye d'attraper dans un réseau de mots quelque chose qui nous échappe. Cette émotion, cette angoisse ou des états plus joyeux. Et je ne pensais pas que ça pouvait arriver aussi quand on écrit tout simplement un texte de présentation ou une sorte de profession de foi très... simplement, peut-on dire, de l'ordre de la pensée ou d'une philosophie qui doit être dite rapidement et qui doit toucher beaucoup de gens, enfin, une sorte de journalisme comme ça. Et en le prononçant, par contre, et puis en lisant aussi l'effort de concentration que j'ai mis dans ce texte, j'ai senti que cet état extatique, en effet, nous accompagne quand on touche à des grands enjeux de société. Parce qu'on est habité par quelque chose de, j'ai employé encore un grand mot, de destinal. On est dans une impasse, à la fois économique, financière, politique. On va voter, quel que soit le gagnant, il va avoir une mission impossible. Ça va être forcément décevant. Personne n'a la solution. Et finalement, derrière cela, il y a une crise immense de société et de culture. Et dans cette crise, il y a évidemment beaucoup d'aspects qui passent par la littérature, qui passent par l'art, la recherche de nouveaux langages, etc. Mais un des enjeux principaux, c'est, me semble-t-il, la rencontre entre les religions et ce grand événement qui a eu lieu en France, tout particulièrement, et qui est la rupture du fil de la tradition, comme dit Hannah Arendt. Et cette rupture du fil de la tradition, c'est les Lumières, c'est le fait que nous avons abandonné les abus de la religion. Et moi, je suis très en phase avec ce mouvement, et tout particulièrement avec son aspect le plus radical, évidemment Rousseau, Voltaire et surtout Diderot, qui, du déiste qu'il fut, devint athée. Mais ce qu'on ne dit pas assez, me semble-t-il, c'est que en créant sa religieuse, que tout le monde connaît, dans lequel il s'insurge contre les abus de la religion. On se rappelle que la religieuse était d'abord maltraitée dans un couvent avec énormément de jeûnes, de mortifications, etc. Et puis elle est passée dans un autre où elle était abusée par une supérieure qui lui a imposé ses relations amoureuses et sexuelles et qu'elle fuyait aussi. Et puis finalement, elle sort du couvent. Et ce n'est pas ce qu'il y a à faire. Et il n'y a plus de sens à la vie. Et Diderot lui-même éprouvait ce vide qu'il habitait après avoir dénoncé les abus de religion. Qu'est-ce qu'on propose à la place ? Il y a un moment très spécifique où un de ses amis de l'encyclopédie le cherche, ne le trouve pas, et puis finalement, il le trouve chez lui en train de pleurer parce qu'il n'arrive pas à finir ce conte qu'il se fait à lui-même et de lui-même. Donc c'est un moment poignant parce que ça montre la difficulté de l'humanisme, y compris le plus lucide, le plus radical, à fonder des valeurs qui tiennent. Et nous en sommes là. Et parmi ces valeurs, il y a évidemment la place des hommes et des femmes, la place des singularités sexuelles, les genres, la place des autres religions, la place de la mort dans la vie, le monde pluriel, qui n'est plus un univers, mais un multivers, on peut y revenir. Mais il y a aussi la place de la croyance. Nous avons un désir immense de savoir. L'humanisme s'est fondé là-dessus, l'humanisme de la Renaissance, l'humanisme des Lumières. Nous avons de l'encyclopédie, oui, et nous avons ouvert la voie à toutes les recherches pour savoir, pour nous approprier le monde, les étoiles, la Terre. Ce savoir n'a pas de limite. Et ces non-limites nous confrontent aussi à des abus qui peuvent exister concernant l'intimité de chacun, concernant la transmission de la vie, concernant les limites de la vie, la mort, le handicap, etc. Et tout en commençant à être assez attentif aux limites éventuelles de ce progrès, et sans arrêter le progrès non plus, vous voyez déjà, c'est assez compliqué, nous nous rendons compte que nous avons oublié une autre dimension de l'expérience humaine qui est le besoin de croire. Freud lui-même était très attentif à cela, mais très prudent en tant qu'homme de lumière. Il n'a pas insisté beaucoup, il a néanmoins pointé dans certains textes que nous, analystes, nous sommes en train d'exhumer aujourd'hui pour essayer d'asseoir ce besoin de croire sur des bases plus solides que ce que nous dit la religion. Et on le retrouve, ce besoin de croire, dans les états précoces du développement de l'enfant, comment il investit ses parents, et c'est l'investissement qui est en fait le croyance. D'ailleurs, mon maître benveniste, dont on va publier bientôt le dernier cours au Collège de France, eh bien, dans son vocabulaire des institutions indo-européennes, il a indiqué que croire, dans les langues indo-européennes, vient d'une racine sanscrite, kretstrada, qui veut dire investir. Je t'investis. Je te fais confiance, tu me fais confiance, et cet investissement réciproque est la base de toute capacité de penser. Et vous savez comment cet investir se dit dans nos langues ? Credo. La croyance est un investissement. Et sans cet investissement, vous ne pouvez pas bâtir des savoirs. Vous ne pouvez pas acquérir le langage, acquérir la pensée, etc. Donc c'est un élément universel de l'être humain sur lequel peuvent se bâtir plein d'abus et plein de manipulations. Ton besoin de croire, je vais en faire des absolus, je vais donner des canons où tu ne croiras qu'à la Vierge Marie ou à la vie éternelle, et si tu ne crois pas à ça, ça ne va pas du tout. Donc il y a des manipulations et d'utilisation de ce besoin de croire dans des corpus qui se sont constitués dans l'histoire de l'humanité et qui utilisent cette croyance pour créer des pouvoirs nouveaux. Et simplement, heureusement, il y a aussi le désir de savoir qui démantèle ces croyances jusqu'au besoin de croire lui-même, sur lequel il faut quand même être prudent, car si on éradique ce besoin de croire, si on ne se contente pas d'interroger les croyances passagères. Mais si on l'enlève en tant que tel, on se prive de certaines solidités de l'appareil psychique. Donc tout ce travail-là, la psychanalyse moderne est en train de le faire, et moi je suis très attentive à cela, et je pense que le nouvel humanisme qu'on est en train d'essayer, plusieurs parmi nous sont dans un esprit de nécessité de refonder l'humanisme, doit passer aussi par non seulement une réévaluation de l'héritage religieux, mais aussi par une reconsidération en profondeur de ce besoin de croire, de son universalité, de ses limites et aussi de son accompagnement nécessaire.
La prima vez que te vidi de tus ojos me enamorí. La prima vez que te vidi de tus ojos me enamorí. De aquel momento te amé. Fin a la tomba te amaré. Aquel momento te amé, fin a la tomba te amaré. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida.
Julia Kristeva, vous disiez aussi que on devait repenser aussi les genres, le monde pluriel, et sans cela on ne peut pas avancer.
Voilà, parmi les 10 principes pour la refondation de l'humanisme, je dis que l'humanisme est un féminisme. Je pensais que ça allait choquer le cardinal auquel j'ai envoyé mon petit papier, qu'il allait me le rendre, mais non, il a accepté quand même. Mais j'insiste à dire que l'humanisme est un féminisme, en ce sens que, vous voyez, si, même si on remonte au début de l'humanisme de la Renaissance, avec Erasme, deux grands textes sont absolument indispensables. D'abord, évidemment, tout ce qu'il dit sur l'éducation, c'est le fondateur de la pensée de l'éducation et de l'enfant, mais le texte fondateur, c'est aussi l'éloge de la folie. Et la folie, c'est la dame folie, et c'est au nom de cette dame folie que Erasme s'exprime, c'est-à-dire qu'il parle au féminin, et dans un féminin qui va au bout de toutes les passions et même en dehors de la raison, dépasse les limites de la raison et donne libre cours à l'hystérie humaine, que certains considèrent comme essentiellement féminine, et pourquoi pas. Donc le souci de s'identifier avec les limites de la raison, avec le féminin, est en quelque sorte consubstantiel avec la naissance, la revendication d'un humanisme qui irait à l'encontre de cette camisole de force qu'une certaine religion met aux sorcières, aux femmes, etc. Donc c'est une espèce d'éclatement de tout ça, et libre cours à la folie féminine. Et bon, bien sûr, après, toutes les Lumières françaises n'étaient pas forcément féministes, mais aussi bien Voltaire que Diderot ont donné beaucoup dans leur reconnaissance par leurs amitiés au génie féminin. Émilie du Châtelet, les textes de Diderot à Sophie, etc. Donc il y a une promotion de la créativité féminine, évidemment, dans toutes les Lumières françaises. Sans parler de Sade et la philosophie dans le boudoir, etc. Donc tout ce mouvement de désenclavement de la sexualité féminine est évidemment proche du génie des Lumières. Aujourd'hui, nous connaissons les différents mouvements qui passent par les suffragettes, qui passent par Simone de Beauvoir, par le féminisme attentif à la psychanalyse plus proche de nous. Tout cela fait partie de la particularité de la pensée humaniste, et on ne fait pas assez justement dans ces directions quand on exige uniquement une égalité ou une parité au niveau économique et au niveau politique, et on oublie qu'il s'agit aussi de parler de la spécificité créatrice des femmes, ce que font les féministes depuis quelques années déjà, en cherchant la particularité de l'écriture féminine, de la place des femmes dans la culture, etc. Donc c'était un des principes que j'ai voulu absolument défendre. Et l'autre qui m'est cher aussi consiste à dire que l'humanisme est un soin d'autrui et un soin d'autrui dans sa fragilité. Nous savons combien, récemment j'ai dû passer par cette épreuve-là, lorsque nous accompagnons nos proches en souffrance, en état de maladie, frôlant la mort, en étant dans des états comateux ou en opération, etc. Cet accompagnement nous bouleverse non seulement au niveau de la pensée, mais au niveau du corps dans son ensemble. Nous souffrons, nous sommes malades, nous sommes broyés lorsque nous traversons ces épreuves-là. L'humanisme assume cela, assume cette fragilité, et cette fragilité non seulement d'autrui, mais de moi-même en réponse à autrui. Et dans mon travail avec Jean Vanier et d'autres autour du handicap, je pense et j'insiste beaucoup sur le fait que l'accompagnement de la fragilité ne doit pas être simplement fait sur une idéologie de la prise en charge et de la solidarité, mais sur une mentalité de l'identification, de la, je ne dis pas la compassion, parce que cela met la personne qui est accompagnée en état d'infantilisation parfois. Mais néanmoins, il faudrait qu'il y ait une empathie profonde et que nous devons apprendre dans la formation de tous les personnels soignants cette empathie, d'où la place aussi de la psychanalyse, du transfert et du contre-transfert. Sans quoi on reste dans une froideur devant laquelle la personne accompagnée se sent abandonnée et l'accompagnant est renvoyé à une sorte de technicité de telle sorte que l'accompagnement échoue. Il devient quelque chose d'extrêmement externe. Et c'est là que les religions nous attrapent. Ils font mieux que nous. Une des choses qui me révolte, c'est que aussi bien l'enseignant que l'accompagnateur d'aujourd'hui des personnes en difficulté n'est pas à la hauteur de ce qui était la vocation de l'enseignement ou de l'enseignant à la fin du XIXe siècle, de ce qu'est la vocation des religieux qui accompagnent les personnes en souffrance. Nous avons raté, nous humanistes, cette dimension-là, et pour la rattraper, il nous faut apprendre l'empathie et le dépassement de l'empathie, mais pour la dépasser, il faut, pour l'élucider, pour ne pas être piégé par l'empathie, il faut pouvoir la donner. Et là, c'est tout un enseignement qui est fautif, qui évidemment doit passer par la valorisation de ces métiers, par une meilleure visibilité, une meilleure énumération. Mais déjà, le principe de l'empathie doit être mis en place.
Oui, tout cela est lié aussi. C'est aussi parce qu'il y a une défection de l'image de ces métiers que l'humanisme n'est plus à la hauteur, on peut dire, ou enfin ridiculisé parfois comme une utopie, alors que si on le prend comme un soin, on réinvestit tous ces métiers.
Absolument. Les politiques, les gestionnaires, les ingénieurs de l'humanité l'oublient. Mais c'est à nous, humanistes, ceux qui se disent tels, d'investir de nouveau ces métiers et de commencer par donner les outils nécessaires. Mais ces outils nécessaires, c'est quoi? C'est d'abord une certaine philosophie de l'accompagnement qui passe par ce que je viens de dire. Et je le répète, se donner aussi les moyens. Évidemment, on se rend compte qu'en état de crise, comme celle que nous traversons, ce sont ces situations-là, ces accompagnements, ces soins humains qui pâtissent. L'hôpital, on sait dans quel état il est, mais aussi les accompagnements des personnes handicapées et du grand âge. Et c'est à nous, humanistes, et encore une fois, je me demande où sont les grandes institutions humanistes qui réclament cela, qui viennent sur la place publique et qui promeuvent cet humanisme-là. Si nous ne tenons pas le coup là-dessus, nous serons broyés par une religion qui a de l'avance sur nous parce qu'elle vient de plus loin et aussi parce qu'ils sont déjà présents et ils ont les institutions qui les soutiennent, mais ils sont plus combatifs que nous. Et en apportant ce soin, sur cette lancée-là, ils peuvent porter aussi leur obscurantisme. Si nous devons combattre leur obscurantisme, il faut être plus fort qu'eux au niveau du soin et de l'accompagnement d'autrui.
Poursuivons cette conversation, Julia Kristeva, autour de l'humanisme. Et tout à l'heure, vous aviez dit que nous reviendrons sur ce terme que vous avez employé de, non pas l'univers, mais le multivers. Qu'est-ce que c'est exactement le multivers ?
Ah, c'est une de mes passions aujourd'hui. Quand j'étais ado en Bulgarie, c'était le moment des Spoutnik, des découvertes comme ça, du cosmos, etc. Et moi, je voulais être astronome. Donc, j'étais assez forte en maths et j'avais fait beaucoup d'astronomie. Et puis finalement, ça n'a pas marché parce que mes parents, n'étant pas communistes, je ne pouvais pas partir en Russie pour être dans les laboratoires, etc. J'ai laissé tomber ça et je me suis repliée, non pas dans le cosmos, mais dans le microcosme du langage, la littérature, les langues. Et puis après, un corps plus intime, la psychanalyse. Et puis maintenant, ça me reprend pour un prochain roman où je parle beaucoup du rapport de la femme au temps, les temps que nous vivons aujourd'hui, les difficultés auxquelles nous confronte la crise, et peut-être l'apocalypse qui attend la Terre, etc. Et je me suis replongée dans les cosmogonies, ou plutôt cosmologie moderne, où les astrophysiciens parlent de la découverte de différents mondes qui sont hétérogènes, qui ne sont pas un univers. Il y a des espaces qu'ils découvrent, des espaces interstellaires, des espaces, des galaxies, etc., qui ne connaissent pas de temps, par exemple, ou qui n'auraient pas 3 dimensions, 4 dimensions, mais 5, 6, 7, 8 dimensions. Donc ce sont des univers très hétérogènes. Ce qui fait que l'idée d'une unité de l'univers n'est plus tenable. Et à partir de là, même les théories d'Einstein, mais enfin, on discute beaucoup là-dessus, et au lieu de parler d'univers, il parle d'un multivers. Moi, je m'amuse beaucoup à reprendre cela, d'abord pour embêter mes interlocuteurs catholiques, parce que l'universel, ça se dit aussi catholicisme, le catholicisme, c'est l'universel, et aussi pour mettre en difficulté l'universalisme humaniste, parce que notre humanisme ne doit pas être universaliste en ce sens qu'un certain nombre de valeurs seraient exportables urbi et orbi, mais nous inciter à les décliner au pluriel et voir des incompatibilités entre les cultures, tout en essayant de trouver des passerelles entre ces différents multivers. Donc c'est un peu ça mon obsession maintenant. Et dans ce souci de m'intéresser à la spécificité de chaque culture, pour descendre sur Terre et parler de l'actualité, je suis très attentive d'une part au monde chinois. J'avais fait une licence de chinois qui n'est pas grand-chose face à l'immensité de la culture chinoise, mais qui me laisse quand même percevoir, et surtout en lisant les développements de la sinologie contemporaine, combien la mentalité chinoise, la pensée chinoise est différente du monde grec, juif et chrétien. Et je prépare une intervention pour la Société internationale de psychanalyse, justement sur la question de savoir s'il peut y exister une rencontre entre la psychanalyse et le monde chinois. Étant donné que la psychanalyse, évidemment, est issue de la culture grecque, juive et chrétienne, pour laquelle la valeur de l'individu, le je suis, la singularité indestructible est un axe essentiel. Et quand le patient vient sur le divan, il décline cet axe. Il ne sait pas qui il ou elle est, mais je suis et qui je suis reste la question fondamentale de l'association libre. Mais est-ce que c'est exportable en Chine? Et si les Chinois s'intéressent à cette interrogation psychanalytique, est-ce qu'ils sont capables d'entrer là-dedans? Bon, il y a Chinois et Chinois. Dans le Chinois, il y a le taoïsme, il y a le bouddhisme, il y a le confucianisme, et puis il y a l'individu moderne passé par le totalitarisme communiste. Il y a celui qui vient d'Amérique, il y a celui d'Internet qui est dans le monde globalisé. On est donc dans un multivers, et la psychanalyse va devoir entendre tout cela. Moi, je suis assez optimiste parce que je pense que la psychanalyse, depuis longtemps, a commencé une reconstruction, sinon une déconstruction de ces valeurs que nous avons héritées du gréco-judéo-christianisme, que nous ne dénions pas, que nous n'ignorons pas, mais que nous nous approprions et que nous réévaluons. Donc déjà à l'intérieur de notre culture, il y a tout un travail de réévaluation, Nietzsche dit transvaluation, et c'est à partir de là que nous pouvons rencontrer d'autres mondes, dont le monde chinois, mais aussi tout près de nous, le monde arabe. Et qui est en pleine expansion et qui nous fait comprendre que le multivers ne va pas être facile. Donc vous savez comme moi et sans doute plus que moi combien les dites révolutions libertaires sont pleines de risques et d'obscurantisme qui vient notamment menacer les femmes. On a donné récemment le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes que j'ai créé il y a quelques années. Nous l'avons donné à des femmes tunisiennes qui sont des femmes démocrates et parmi lesquelles il y a des avocates, des médecins, des psychanalystes aussi, des enseignantes qui sont absolument terrifiées par ce qui s'annonce par un certain islam qui essaye d'enfermer ces femmes, de les voiler, d'imposer la polygamie, d'introduire cela aussi dans l'université, etc., etc. Elles sont aussi assez confiantes dans une tradition qui en Tunisie est plus forte que dans d'autres pays du Maghreb, mais il y a quand même un doute énorme qui plane dans ces pays. Et en Syrie, la situation est encore plus dramatique. Et en même temps, j'entends beaucoup de gens qui sont très dubitatifs parce que ceux qui sont contre Assad, est-ce qu'ils sont vraiment des libertaires? On n'en sait pas trop. En attendant, on essaye de sauver des vies. Et il y a quelques mois, je me suis beaucoup engagée dans le sauvetage d'une psychanalyste qui est Rafa Nached et qui est une femme remarquable et qui, elle, a travaillé dans une sorte de multivers. C'est une femme qui a fait sa formation en France, en psychologie et psychanalyse, l'Université Paris 7, et qui, en rentrant dans son pays, la Syrie, a travaillé avec des situations extrêmement difficiles, d'enfants psychotiques, de vieillards, etc. Et elle a créé aussi son cabinet en essayant de propager la psychanalyse dans ce pays. Elle a écrit aussi beaucoup de textes dont on n'a pas parlé. C'est aussi une sorte de discrimination vis-à-vis des femmes, parce que très peu la soutenant, on dit que c'était une femme très créative et qui a déjà une œuvre. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans ses créations? Elle dit qu'il est difficile de faire de la psychanalyse dans un pays ou dans une tradition où on a du mal à dire « je » et on a du mal à dire « non ». La question de la révolte est très vite arraisonnée par d'autres tyrans et antidémocrates et qui connaissent pas ce que c'est que la liberté et qui empêchent justement de chercher qui je suis et comment je peux être créatif. Et pour ce faire, pour essayer de développer cette possibilité de création, cette femme a trouvé deux choses. D'abord, elle crée un lieu de psychothérapie contre la peur. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle a été enfermée, parce qu'en passant à la frontière, on a trouvé sa fiche, il voulait venir en France, on a vu une fiche dans laquelle il était dit qu'elle fait une psychothérapie contre la peur, alors contre la peur, peur du gouvernement, donc vous êtes contre le gouvernement, donc on vous enferme. Mais plus fondamentalement, encore, son travail consistait à créer un groupe de traduction de Freud à partir d'un vocabulaire de la langue arabe qui ne serait pas un vocabulaire officielle, mais imprégnée par la mystique arabe, pour traduire les textes arabe à partir du vocabulaire d'El Halage, qui est ce grand mystique arabe et qui essaye de penser son lien à Dieu à partir, c'est-à-dire la foi, la croyance, nous revoilà encore dans le besoin de croire, à travers un investissement amoureux, un discours d'amour qui implique le corps, qui implique les sentiments et qui est davantage approprié au vocabulaire freudien qui parle de pulsion, qui parle de corps, qui parle de transfert et pour lesquels on avait du mal à trouver les mots adéquats. Donc vous voyez cette espèce de polyvalence, de polytopie, de kaléidoscope que représente le travail de cette femme et qu'on a voulu empêcher. Donc on l'a libérée grâce à diverses interventions, mais la situation est loin d'être réglée, tout le monde le sait. Et cette fameuse révolution arabe, elle a du plomb dans l'aile. Donc voilà, là aussi, une grande vigilance nous attend. Ne croyons pas facilement à ceux qui agitent le nom de liberté, essayons de voir ce qui se cache derrière. Là aussi, c'est une mobilisation des humanistes qui s'impose et je suis un peu étonnée quand même que dans cette campagne présidentielle, on entend beaucoup de voix qui s'élèvent pour parler de peut-être une autre conception de l'économie. Mais quant à parler de la refondation de l'humanisme, de notre souci vis-à-vis des religions, y compris quand elles se parent de nouveaux habits, bon, ça, on n'entend pas beaucoup. Le temps est peut-être venu de saisir l'occasion pour remettre sur le tapis cette urgence de refonder l'humanisme.
Merci beaucoup, Julia Kristeva, pour ce moment où on retrouve vraiment tous vos thèmes, finalement aussi, qui se sont faufilés dans cette conversation.
Merci à vous et merci de me donner l'occasion de parler de quelque chose qui est intime et pour lequel j'essaye de trouver des mots d'un peu passe-partout et qui concerne la communauté. Mais dans mon souci pour l'humanisme, si j'en suis, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas d'autre moyen de défendre le droit à l'intimité que celle-ci. Celle-ci, c'est-à-dire la cause de l'humanisme.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai.
Et c'est sur cette chanson de Lucio Dalla, pour lui rendre un dernier hommage, que se referme ce carnet nomade. Merci à vous, Julia Kristeva. Je rappelle quelques titres de vos livres autour du génie féminin, les trois tomes que vous avez consacrés donc à Hannah Arendt, Mélanie Klein et Colette, c'est en folio essai. Un livre aussi chez Fayard avec Jean Vanier, « Leur regard perce nos ombres ». Et chez Fayard également, « Thérèse, mon amour ». Quelques livres à signaler de Christian Giudicelli, « Tunisie, saison nouvelle » chez Gallimard dans le sentiment géographique. Et de Marie-Gilles, une biographie de Roland Barthes, « Au lieu de la vie » dans la collection « Grande biographie » chez Flammarion. Carnet nomade, Alain Joubert à la technique, Thierry Beauchamp à la coordination, Vincent Deck à la réalisation. Colette Fellouz, vous pourrez nous retrouver au Salon du Livre samedi prochain à 19h30 où nous serons en direct. Très bon week-end à tous.